Time Sport avec Bilal Nelman sur Beur FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beur FM. Et oui, la dernière de la semaine, Time Sport du lundi au vendredi. On rappelle les horaires à toutes les auditrices et les auditeurs de Beur FM, 19h, 20h pétantes. Et oui, au menu de cette émission ce vendredi 4 juin 2021. On parlera, allez, bien sûr, c'est l'Euro, la phase finale de l'Euro 2021, tout en Europe, à travers les grandes villes européennes. On parlera des hommes de Didier Deschamps, sans oublier les autres sélections nationales. Mais aussi Jean-Marc Furlan avec nous, l'entraîneur de l'AG Auxerre, voilà, sera pour la première fois sur l'antenne de Beur FM. Ça promet une courte page concernant les internationaux de France avec Roland Garros, sans oublier aussi la fin très triste des champions titre en NBA, les Lakers de LeBron James. On n'en dit pas plus, n'oubliez pas le 01 53 48 3000, mais aussi de réagir sur la fameuse Twittosphère. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi, on aura le coach Tollé. Comment ça va ?
Bonsoir tout le monde, bah ça va bien, bien.
Ça va très très bien. Le grand sourire du coach Tollé, il nous revient aussi. Lui tout droit du soleil, c'est notre Fred, notre consultant. Comment ça va Fred ?
Bonsoir Bilal, écoute, joli programme, content de pouvoir débattre de l'actualité sportive ce soir.
Eh ben nous aussi, Fala sera avec nous, et tout comme Vivien. Vivien, comment ça va ?
Bah ça va et toi Bilal ? Bah j'ai envie de dire, on a un beau trio. Ouais. L'équipe de France a Mbappé, Griezmann. Voilà. On a Claude, Fred et moi, voilà.
Voilà, il a tout dit, il a tout dit, ben c'est super. On va voir avec ce magnifique trio.
Il fait surtout penser à Pascal Nouma.
Aïe, 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 Pascal Nouma. Eh oui. Il a enchanté le coach Tollé, c'est ça.
Du stade Marat de Caen.
Ouais, il était pas mal.
Je suis moins exhibitionniste que lui, par contre.
Arrête, quand même. Tu vas rester tranquille. Le coach Tollé ne commence pas avec Vivien. Allez, c'est parti avec Fred et tous les auditeurs de Beur FM.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Eh oui, le sujet justement, on aborde quelle équipe de France, quel visage on aura pour les Bleus. Autre chose qu'une victoire peut-être ou même un échec. Eh oui, faut-il s'attendre à un échec de la part des hommes de Didier Deschamps ? Là est la question. On se voit peut-être trop beau, on en parlait en début de semaine. Fred ?
Non, c'est sûr que l'équipe de France, elle paraît invincible parce que ça fait un moment qu'on ne les a pas vus perdre. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui peut aligner deux équipes capables de gagner l'Euro. C'est l'équipe qui a le plus gros effectif, c'est l'équipe championne du monde. Et ils sont entendus comme favoris. Après, il y a déjà un groupe compliqué. Et c'est vrai que l'équipe de France, ça fait un moment que... L'équipe de France, c'est une équipe dans ces tournois qui monte en puissance, qui démarre pas tout de suite. C'est un peu un diesel, l'équipe de France. Et là, il y a un groupe compliqué. Il y a le Portugal, il y a l'Allemagne, il y a la Hongrie. Faudra que les joueurs se mettent tout au diapason, qu'ils n'attendent pas les huitièmes de finale pour commencer à se mettre à leur meilleur niveau.
Eh bien, clairement,
en termes de résultats, on s'attend tous à voir.
Le niveau est là, bon, pour le premier match, ça va, 3-0.
Oui, j'aurais bien aimé voir le match à 11 contre 11, même si bien sûr le carton que j'ai provoqué.
C'est dur.
Voilà, mais en termes de résultats, forcément, on s'attend tous à gagner. On va dire en objectif minimum, on dirait quoi ? Demi-finale, enfin pour dire quel serait le niveau d'échec.
Les attentes sont hautes.
Voilà, en dessous de finale ou demi, ce sera un échec absolu. Mmh. Mais malgré tout, malgré notre superbe attaque, notre super potentiel, ça reste un euro. Et faut se souvenir de notre Euro 2000, on a quand même souffert. Et pourtant, on avait une génération exceptionnelle. Donc cet Euro 2021, ou 2020 parce que ça a gardé le nom 2020, on s'attend à voir une équipe de France aller assez loin, mais je sais pas, attention. Ouais. Faut encore trouver le bon 11 par exemple pour moi.
Oui, on l'a pas trouvé encore.
Il paraît
trouvé.
Moi je pense qu'au milieu il y a la présence de Rabiot, personnellement je pense que c'est discutable.
Oui, il n'est pas d'accord.
Trouver avec le meilleur Rabiot. Équilibre.
Ouais, il a pas dit, ça c'est le cœur parisien qui parle.
Ouais. Ah ben non pour
c'est
coup,
ça.
Alors
mais
pour
non,
le coup j'aime beaucoup Rabiot mais. Ouais. Je sais pas, je trouve qu'il ralentit un peu le jeu et voilà.
Il ralentit le jeu. Rabiot, l'échec ou même la victoire, le coach Tollé, cette équipe de France.
Moi, difficile de faire une analyse sur un match, comme l'a dit déjà Vivien, lorsque tu as une faible équipe du Pays de Galles rapidement réduite à 10. Après, faut surtout regarder ce qui a été proposé en termes de jeu. Alors, c'est vrai que le Pays de Galles, les Gallois nous ont laisser la possibilité de le faire. Mais le point surtout qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier que là, on est en phase de préparation, Les joueurs ont terminé leur championnat. Donc là, il y a eu un gros travail physique qui a été effectué. Un match contre le Pays de Galles, c'est la finalité. Ils vont attaquer une seconde phase. Et ce qui est important, c'est d'être prêt lors du premier match. Et encore même au premier match, on n'est jamais à 100%. Donc ce qui est important surtout, c'est que ce groupe puisse monter en puissance. Donc là, bah voilà, pour un match de reprise, pour le premier match de préparation, tu t'imposes 3-0, tu fais le job. On a vu quand même qu'il y a moyen d'avoir du beau jeu. On se plaint souvent de cette équipe de France là, et c'est vrai que la présence de Benzema en termes de jeu, en termes d'animation, en termes de confiance, tu le vois sur le comportement de ses partenaires autour de lui, va apporter clairement ce que l'on attend de lui, pas forcément marquer 10 buts à l'euro, mais apporter cette touche technique, cette créativité, cette expérience du très très haut niveau. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant voilà, faut être tranquille. Tu t'imposes 3-0, il y a un deuxième match qui arrive. Comme l'a dit Fred, il va falloir être présent lors du premier match qui sera à l'extérieur. Ça faut pas l'oublier, dans cette nouvelle configuration de l'euro en Allemagne, va falloir être fort tout de suite. Mais en même temps, le fait d'être dans un groupe difficile, ça te permet aussi d'être dans le bain tout de suite. Voilà, et je pense que l'Allemagne et le Portugal se disent que bon, bah voilà, ils sont pas forcément heureux d'avoir l'équipe de France dans leur groupe. Donc non, faut prendre les choses tranquillement. On verra bien, mais il y a pas de raison. L'effectif est juste impressionnant, l'équipe de France. Après, ça suffit pas. Va falloir que les 26 se sentent concernés et qu'il y ait un état d'esprit surtout irréprochable.
Ouais. Mais tu sais, Claude, t'as dit quelque chose d'intéressant. T'as dit que l'Hongrie, le Portugal et l'Allemagne se méfiaient de l'équipe de France. Et je pense que là, on va vraiment entrer dans une nouvelle ère. Et que le style de jeu de l'équipe de France, qui était quand même un style de jeu vachement basé sur la transition, va beaucoup changer. On l'a vu déjà face au Pays de Galles. C'est des équipes qui vont défendre bloc bas. C'est des équipes qui vont pas ressortir. Et l'équipe de France va devoir adopter un autre style de jeu. On sait que l'équipe de France a été critiquée sur ça, a été critiquée sur ce jeu en transition, a été critiquée.
On critique un peu surtout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le jeu en transition fait partie du jeu.
Totalement, je suis d'accord.
C'est surtout qu'en fait, si tu veux, on se plaignait du fait que quant à la qualité intrinsèque des joueurs de l'équipe de France, c'est pas normal d'avoir. On trouve pas normal d'avoir un jeu aussi pauvre. Après, tu sais, on veut toujours critiquer sur tout. Tu vas faire une touche, on va critiquer sa touche. Tu vois.
De toute façon, ils pourront plus jouer comme ça.
Mais justement, en termes de jeu, moi, je trouve contre l'Allemagne, tu sais, les Français-Allemagne, souvent ces dernières années, on avait plutôt l'habitude de subir un peu, de jouer en contre.
Exactement.
On va même pas parler de l'Euro 2016 et 2014, parce que ça commence à être un peu loin. Mmh. Donc, du coup, le France-Allemagne, moi, en termes de jeu, ça m'intéresse vraiment de se dire, quelles vont être les intentions offensives? Comment est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va avoir des phases de jeu intéressantes? Et voilà, forcément, en tant qu'amoureux du jeu, on est impatient de voir ça. Plus que le résultat, c'est vraiment voir la physionomie du match.
Bah, c'est sûr que
Et ça, c'est peut-être, je trouve, l'inconnu que moi, j'aurais à, on est quoi, à 4 jours du match? Parce que c'est mardi de mémoire.
C'est un peu trop tôt.
Ouais.
Non, l'euro commence.
Le 11,
vendredi. Et le 15, c'est le 11.
Et ça se termine le 11 juillet.
Pardon, j'étais dans l'euro de basket. J'ai confondu les dates. J'étais dans l'euro de basket féminin, excusez-moi.
J'ai une confusion.
Ouais, c'est ça. Pardon, je confondais un peu les euros.
C'est intéressant, et c'est sûr que par rapport aux autres, France-Allemagne, comme en 2014 ou comme en 2016 en demi-finale, là, c'est sûr que l'Allemagne, ils vont beaucoup moins venir nous chercher, ils vont beaucoup plus défendre bloc bas. Là, ils ont récupéré Thomas Müller. Ça fait un moment qu'ils sont passés lui en sélection. Ils vont adopter, je pense, aussi une approche tactique différente.
Ouais.
Et c'est sûr que là, l'équipe de France, ça pourra moins imposer un jeu en transition comme lors des précédentes confrontations que là. C'est plutôt l'équipe de France qui va avoir le ballon et l'Allemagne qui va laisser l'équipe de France venir. C'est sûr qu'on va, on va voir que sur ce match-là, il y a deux grosses rivalités qui vont dans la confrontation, on va avoir d'autres physionomies. C'est évident.
Moi, je suis pas.
Viens, reviens à toi. Hein. C'est mardi face à la Bulgarie. Hein. Voilà. Et le premier match de l'équipe de France sur la phase finale de l'Euro, c'est le 15 juin. Ouais. C'est ça, face à l'Allemagne.
Je suis pas sûr que les Allemands laisseront jouer l'équipe de France. C'est pas dans leur style.
Ouais.
C'est pas dans leur ADN.
Ouais. Assez revanchard, les Allemands, face à l'équipe de France.
Je pense qu'au contraire, ils auront la volonté, avec les armes qu'ils ont. C'est vrai qu'ils sont pas au mieux, mais d'étouffer. D'essayer de gagner la bataille du milieu de terrain, ça sera peut-être difficile, mais faut se méfier quand même d'une sélection comme l'Allemagne, qui est une bête blessée, mais ils ont toujours un état d'esprit attention.
Mais tu vois pas le cycle après. Ouais, mais tu vas prendre la main, les joueurs sont peut-être.
Mais là, tu sais que si jamais, justement, on les voit un petit peu en difficulté, s'ils réussissent une performance contre les Bleus, ah, qu'est-ce qu'on va dire de l'Allemagne? Ouais.
Mais après, il y a le Portugal derrière.
Ça peut, ouais, mais bon, il y a un moment, là, on parle de France-Allemagne, ça sera le match le plus important, tu vois ce que je veux dire?
Ça, je suis pas sûr.
Donc après,
c'est quand même l'ouverture.
Non, en plus, viens nous chercher.
Le match qui arrive est le match le plus important.
Ah oui,
c'est France-Allemagne.
Et l'important, c'est les trois points, comme dirait les coachs. L'important, c'est les trois points.
Le plus important, c'est celui qui arrive.
Et les 0-6,
le plus important, c'est celui qui arrive, on est d'accord.
Bien sûr.
Donc, il va falloir bien commencer. Non, mais après, on rentrera dans une compétition. C'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien. Mais moi, j'en ai vu, moi, des sélections cartonnées en match de préparation et complètement explosées arrivées à la compétition parce qu'il y a l'aspect mental, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc attention, mais la France est armée pour.
Mais c'est vrai que, après, honnêtement, je sais, c'est. J'avance tout, c'était, on essaie un peu de voir quels seraient les potentiels nuages, les points d'alerte pour les Bleus. Et
alors, pour toi.
Et mais justement, je trouve que cette année, c'est plus dur que d'en trouver. Enfin, on pourrait se dire, est-ce que la défense, mais que ce soit Varane ou Kimpembe, je trouve que quand ils sont en bleu, ils sont meilleurs. Enfin, c'est. Donc, on essaie un peu de.
Les favoris.
Les secteurs, mais c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile.
La France est favori. Mauricio nous dit que l'Italie sera championne d'Europe. Eh oui.
Mauricio, c'est pas surprenant qu'ils nous disent que l'Italie soit la championne d'Europe.
Ouais.
Comme ils pensaient que la Juve irait loin en Ligue des Champions.
Lui, il pensait plutôt le Napoli. Ouais,
mais l'Escuadra peut être une belle surprise. Ils reviennent de loin. Il y a un gros travail qui a été fait.
J'étais surpris qu'ils prennent pas Keane, mais bon, on sort un peu du sujet.
Il y a un gros travail qui a été fait de la part des Italiens. Ils ont fait une campagne quasi parfaite. On n'en parle pas. Et justement, c'est dans ces moments-là que l'Italie, lorsqu'on les considère un peu comme moyens, c'est là où ils arrivent à monter en puissance et surprendre. Mais pour revenir à l'équipe de France, je pense qu'on va avoir un vrai test quand on va affronter l'Allemagne. Parce que là, t'as quand même des joueurs à vocation offensive qui peuvent te faire la différence. Et c'est vrai que t'as envie quand même de voir quel est le comportement de la charnière centrale entre les lignes, entre le milieu de terrain et la défense. Comment on peut être amené à réagir? Parce que tu vois que t'as des joueurs. Varane fait pas la meilleure saison de sa vie non plus. Kimpembe, moi je le trouve solide, mais je me pose honnêtement des questions sur la durée, dans une continuité.
Bah parfois il a été excellent en Ligue des Champions et très mauvais en Ligue 1, c'est ce qui est bizarre.
Après, c'est un vrai soldat. Mais après, c'est vrai que Kimpembe, par exemple, c'est quand même le type de joueur. On a le sentiment que lorsqu'il a un mec, un meneur d'homme comme Deschamps en mode commando, en mode équipe de France, il fera son match, il sera solide. C'est là qu'on.
Après, il était remplaçant à CDM 2018. Mais bon, c'était il y a 3 ans, il y a eu beaucoup d'années, beaucoup d'eau sous les ponts. Mais c'était Varane Umtiti à l'époque. Kimpembe, ce sera intéressant, je trouve, justement, cette première compétition dans une charnière pour.
Qui a été un petit peu moins bien aussi. Moi, je l'ai vu contre la France, elle avait joué contre l'Ukraine, il avait été en difficulté.
Bien sûr.
Faut voir.
Après, il a fait un gros match face au PSG, mine de rien.
Comment?
Avec le Bayern, il avait
été monstrueux contre le PSG quelques semaines plus tard, c'est vrai. Mais on parle beaucoup du trio d'attaque, mais tu gagnes avec un bloc défensif de très haut niveau. Et c'est ce qu'a réussi à faire Deschamps jusqu'à présent. Donc est-ce que notre animation défensive sera aussi performante? Je me pose encore des questions en termes d'équilibre.
Et nous, on se pose encore des questions. Vous pouvez réagir, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Vous voulez réagir avec les consultants de Tam Sport, vous le faites, vous appelez. Yanis vous fait passer à l'antenne, justement concernant la fameuse intégration de Karim Benzema. Eh oui, chez nos confrères de BFM TV, Didier Deschamps a dit justement qu'il n'a jamais douté des capacités du Madrilène à se fondre dans le collectif. Je cite, je le dis en toute sincérité, il a été avec ses joueurs sous ce maillot ou en club. Il a eu l'occasion, le coach Toledo, de parler avec eux. C'est un non-sujet. Si j'ai pris cette décision de le faire venir, Fred, c'est parce que j'ai mesuré qu'il n'y avait aucun problème, Vivien. Eh oui.
Bah, Deschamps, il est malin et il a envie de gagner l'euro. Honnêtement, pour moi, c'est. Oui, il y avait eu des problèmes, etc. Mais dans l'état actuel, moi.
Quel problème, en fait?
Bah, quel problème ça?
Il est mis en examen.
Non, moi je pense plus qu'ils ont été peut-être chacun les deux un peu blessés par toutes les déclarations, etc. Même si on sait qu'il y a eu beaucoup de contexte face à ces fameuses déclarations, ces interviews dans Marca, etc. Donc il y a eu une affaire d'homme où on a l'impression que chacun a été un peu blessé de son côté. Et ça a mis 5 ans. Comme chacun a dit, on peut pas refaire le passé. Donc C'est un peu ce que les deux ont dit en conférence de presse ces derniers jours.
Surtout que Deschamps, on sait que c'est quelqu'un qui, enfin, pas que je me permettrai pas de dire, je ne connais pas personnellement, ouais, mais qui est assez sensible. Enfin, on l'a vu avec l'affaire Cantona, il y a eu une plainte. On l'a vu lors de l'Euro 2000 quand il a été critiqué par la journaliste. Il a dit, bah écoutez, je ne vais pas parler aux journalistes de la compétition. Après, on lui demande souvent, mais qui a fait le premier pas? Il dit, ça aurait pu se faire avant, ça s'est fait que maintenant. Là, la vérité, c'est qu'il a bien vu que Giroud ne pouvait plus le mettre titulaire, en fait. C'était l'équipe de France, belle comme elle est, il te faut un grand attaquant, et on le voit bien. Dans le groupe, on voit bien que.
Et Martial aussi, Martial, il est blessé aussi, ouais, tout le temps.
Ouais, même. On voit que Benzema, c'est la star. C'est pas Mbappé, c'est pas Griezmann. Moi, j'ai l'impression que c'est Benzema la star. Qui gravite
selon Fred,
de lui,
et
que,
ouais.
Parce que c'est le joueur qui a le plus d'expérience, et le joueur qui a gagné 4 Ligues de Champions, c'est Karim Benzema.
Ouais.
Moi, je pense que concernant Deschamps, il ne le dira pas.
Ouais, alors.
Il y a une communication à tenir. Je pense qu'il a. Même si tu avais eu tous ces mecs-là au top, t'as bien terminé pour moi. Benzema, il reste au-dessus de tous ces joueurs.
Exactement.
Ça fait depuis 11 ans que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. 4 Ligues des Champions. Ça fait depuis 4 ans qu'il est au très haut niveau. Enfin, même son jeu a même évolué. Qu'on aime ou qu'on aime pas, le gars, c'est une légende.
C'est boss du Real.
C'est une légende aujourd'hui. Et je pense que c'est au-delà, c'est un peu une question de Marcel blessé ou Giroud moins bien. C'est pas ça. Après, ils vont essayer d'avoir une communication un peu lisse pour les médias, pour tout le monde. Mais c'est autre. C'est les soucis que l'on connaît. Et encore, en réalité, c'est pas réglé. Hein. On va avoir la décision au mois d'octobre. Donc, ce qui montre que le problème, il a été ailleurs. Après, voilà, il l'a dit. Ça aurait pu se régler avant. Ça s'est réglé aujourd'hui. Je pense qu'il y a des raisons qu'on ne sait pas encore et on le saura dans quelques années. Mais l'important, c'est que tu as les meilleurs joueurs offensifs français en équipe de France, et ça fait plaisir à voir.
Bah ça, ouais, et c'est intéressant ce que tu dis, Claude, quand tu parles. Bah, alors, je vais finir sur ce que tu disais.
Ouais, rapidement.
C'est vrai que rapidement, l'équipe de France, là, sur cet Euro, c'était pas le cas dans les autres compétitions. On a vraiment un banc en or, et on l'a vu face au Pays de Galles. Tu fais rentrer Coman qui a été super bon, tu fais rentrer Dembélé qui a été super bon. On a un banc exceptionnel, et c'était pas forcément le cas lors de l'Euro 2016. On a même vu que Marcel Coman, lorsqu'ils ont rentré, c'était pas forcément ça en équipe de France. Là, pour le coup, on a un banc et on n'a pas un duo d'attaque. On a 6 attaquants qui vont être très, très performants et qui sont Coman, Ousmane Dembélé, Ben Yedder. Tu les mets, tu peux gagner le Euro avec eux-mêmes.
Tout simplement. Céline, après Mauricio nous dit que l'équipe de France, vous verrez, messieurs, remportera cette fameuse Euro, ce fameux Euro 2021. Allez, peut-être on a le temps d'avoir rapidement Mourad au téléphone. Allez, Mourad qui a composé le 01 53 48 3000 avant la pause. Rapide, une réaction. Oui. Eh ben non, peut-être. On l'aura pas. Peut-être après. Oui. Oui, ben Mourad, on essaiera après tout à l'heure. On n'a plus trop le temps, on va faire une courte pause avant de revenir avec notre invité. On essaiera de prendre Mourad au téléphone pour parler de cette équipe de France de Didier Deschamps. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beber FM, votre émission sport quotidienne. 19h-20h avec et ouais, je suis passé du rôle de consultant à présentateur. Vivien, t'as vu un petit peu la magie?
Ça arrive, t'as fait un peu comme Zidane et Ancelotti, t'étais assis sur le banc de la décima, mais tu lorgnais la place de numéro 1, là, donc là ça y est, c'est le moment.
Ouais, trop de respect pour Bilal, je suis son adjoint. Fred et Vivien, donc avec moi pour la suite de cette émission, le Time Sport, tout de suite, on passe à la suite.
Time Sport, The Special One, The Special One. The special...
Il a entraîné Libon, Saint-Seurin, 3 Strasbourg, Nantes, 3 de nouveau, le Stade Brestois. Il est actuellement entraîneur de la JOCR, monsieur Jean-Marc Furlan avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Un plaisir en tout cas de vous avoir dans notre émission de Time Sport sur Beurre FM. Ma première question, Jean-Marc.
C'est un plaisir également.
Ah,
un
plaisir également. Ma première question. Comment allez-vous après cette saison agitée, mouvementée, plein de suspense en Ligue 2 avec la GIA?
Oui, c'est vrai, plein de suspense. Non, je suis sincèrement. On est depuis 15 jours c'est des semi-vacances pour un entraîneur. C'est pas vraiment des vacances parce qu'on est obligé de convaincre les joueurs de re-signer, de recruter, mais. Oui, je suis satisfait du comportement des joueurs et de l'ensemble de leur investissement et de cette saison. Je suis satisfait par rapport à ça, même si on avait rêvé de faire les barrages, quoi. Voilà, de commencer à faire les barrages. On avait rêvé de ça.
Question Fred.
Oui, bonjour, Monsieur Furlan. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est vrai que tout au long de la saison, Auxerre se positionnait au moins à la 4e, 5e place. Bataille avec Grenoble, avec le PFC. Au final, vous avez fini à 2 points de la 5e place. Qu'est-ce que le PFC avait peut-être de plus, même si ça s'est joué à des tailles, qu'est-ce que le PFC a pu avoir de plus que la GIA pour obtenir cette 5e place?
Sincèrement, Fred, pour analyser ça, c'est multifactoriel le football. On ne peut pas faire des analyses analytiques. Tout le monde a le sentiment de tenir des propos en matière de football qui se veulent toujours intelligents. Et n'importe quel citoyen qui aime le foot a sa propre vérité. Mais je pense que c'est multifactoriel. Et je pense que nous, par exemple, dans notre construction de groupe, déjà par rapport à certains clubs, comme Troyes ou Clermont ou d'autres, on avait changé 6-7 joueurs. Donc déjà, on a pris un peu de retard en début de saison. Ensuite, on a été pénalisé parce que, par exemple, il y a des petits détails comme il y a des matchs qu'on ne gagne pas à Toulouse ou à Grenoble parce qu'on manque des pénalties ou à Rodez.
De Le Bihan.
Oui, c'est ça. Après, interdit, Le Bihan interdit de tirer les pénalties.
Ah bah ouais, il en a raté. Hein.
Donc, voilà. Mais pour bien analyser tout ça, je pense que nous, on avait une équipe à la fois talentueuse et assez spectaculaire, mais ce qu'on a prouvé, nous, avec notre staff, c'est qu'on manquait de profondeur de banc. Et il y a des équipes, par exemple, comme Troyes, Clermont, Paris FC,
Toulouse,
ou même Toulouse et Grenoble, qui avaient une profondeur de banc beaucoup plus importante. Et nous, ça nous a, je pense, beaucoup pénalisé de ne pas pouvoir faire, c'est quand même une règle dans le football moderne, que de faire du coaching, quoi, comme on dit.
Justement, Jean-Marc, bonsoir. Si on se projette pour l'an prochain, est-ce que vous pensez pouvoir compenser justement cette profondeur de banc qui a manqué, peut-être par la formation, voire dans l'idéal, par l'acquisition de nouveaux joueurs? Quelle est un peu votre vision pour l'an prochain? Pour peut-être passer ce cap et atteindre le fameux podium de Ligue 2.
Ben, en fait, si tu veux, c'est que d'abord effectivement, quand tu évolues dans des clubs comme la JO Auxerre, qui est un club très populaire en France, c'est comme si tu vas à Saint-Étienne ou à l'Olympique de Marseille, c'est des clubs très populaires qui ont une très lourde histoire. Et donc les gens te réclament que la Ligue 1 est très haut niveau. Donc quand tu es entraîneur, ta survie dépend que comment tu es sur le podium. Mais par rapport à ça, compte tenu de la crise économique et crise sanitaire, il y a beaucoup de soucis sur le plan économique pour tous les clubs, vois-tu. Et donc, de ce point de vue-là, j'espère effectivement faire progresser, faire avancer nos jeunes, mais de là à avoir un effectif très très large pour l'an prochain, ça va être un peu plus compliqué, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire crise économique et crise sanitaire. Donc voilà, qui a engendré la crise économique, cette crise sanitaire. Donc, pour ça, je suis quand même un peu dans l'expectative et un peu dans l'interrogation. Mais j'espère effectivement que cette année, j'ai participé à l'entraînement beaucoup de jeunes. J'espère que peut-être qu'ils pourront nous apporter un plus dans le coaching, effectivement.
Justement, une question à Jean-Marc. On en est où au niveau de la formation du côté de la Géosserre, hein, qui a été un vivier extrêmement important pour le football français, jusqu'à amener même des joueurs en équipe de France.
Alors, très sincèrement, par rapport à ça, ce qu'il faut, il faut vraiment évoquer aux supporters du football, aux gens qui sont attirés par le football et qui aiment ça, qu'on n'est plus à l'époque de Giroud. Et le centre de formation de la GIA est un très beau centre de formation, magnifique. Mais contrairement à l'époque de Giroud, où il y avait trois clubs formateurs dans le championnat français, ils s'appelaient Sochaux, Nantes et Auxerre, qui avaient 10 ou 15 ans d'avance sur les autres. Tandis que maintenant, il faut avoir des stratégies et une politique complètement différente, parce que maintenant, dans le football français, d'ailleurs le football français qui fournit les meilleurs joueurs au monde, la dernière Coupe du Monde, il y avait, si je m'abuse et si je ne me trompe pas, 48 joueurs à Moscou, nés en France et formés dans un club français. Vous vous rendez compte, les gars, c'est à 4 sélections. C'est qui étaient à Moscou, à la Coupe du Monde. Alors, bien sûr qu'ils jouent dans des pays différents. Mais donc, ça veut dire qu'en France, on est devant le Brésil, qui a une population beaucoup plus importante, pour sortir des joueurs D'ailleurs, vous voyez bien, l'équipe de France, à part un ou deux éléments, tous les autres jouent à l'étranger. Oui. Donc, maintenant, en France, il y a 36 clubs qui forment d'une façon très, très importante. Donc, le challenge de la formation des jeunes devient encore plus compliqué. C'est un challenge encore plus important. Mmh. Et je ne vais pas l'évoquer pendant 10 heures ici, pour les clubs français. Contrairement à ce qui se passait à l'époque de Giroud, où je me souviens très bien, parce que c'était mon époque de footballeur, où il y avait trois grands clubs qui avaient 10 ans avant, je les répétais, je le répète, Sochaux, Nantes et Auxerre.
C'est vrai, monsieur Furlan, que quand vous nous parlez de Giroud, on pense à Mixès, on pense à Eric Cantona, on pense à Djibril Cissé.
Il y en a eu d'autres, hein.
Il y en a eu d'autres. Ouais, bon, il y en a un pour rester pendant des minutes.
Martins. Évite de m'en contrarier, s'il te plaît. J'ai joué contre eux, et quand on venait, des fois on les bougeait grave, mais comme ils avaient les 22 meilleurs joueurs français, ils arrivaient toujours à gagner 1-0 ou 2-1. Alors, je te dis, la haine qu'on avait, je te dis pas.
Ah, j'imagine.
Parce que des fois, on te les bougeait grave pendant une heure et demie, à l'aller comme au retour, et ils arrivaient quand même à te niquer, tu vois.
on va dire, vous avez pris beaucoup de fesses à l'Abbé Deschamps.
Comment?
Vous avez eu quelques souvenirs douloureux en tant que visiteur à l'Abbé Deschamps.
Oui, en tant que joueur, oui. Mais après, comme entraîneur, c'est différent parce que l'époque est différente. Mais en tant que joueur, oui, c'est vrai. Mais ils avaient à l'époque, comme d'ailleurs me disent les joueurs qui participaient dans cette équipe-là, ils me disent, c'est pas compliqué, genre, c'est pas qu'on joue mieux au foot, c'est juste qu'on a les 22 meilleurs français, c'est tout. Ils me disaient ça. Mmh. C'était vrai d'ailleurs.
Alors moi, j'ai une question. Il y a notamment le fameux Blaise Matuidi qui dit beaucoup de bien de vous comme d'autres joueurs. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs de Beurre FM peut-être qu'est-ce qui fait votre force en tant que technicien? Et on se demande aussi, est-ce que Jean-Marc Furlan, on aurait pu le voir coacher actuellement même un club de Ligue 1, pourquoi pas, même plus haut?
Mais en fait, c'est très particulier le choix moi je suis très étiqueté Ligue 2 parce que j'ai fait 4 accessions. Je suis allé en Ligue 1 et j'ai fait un ou deux maintiens et des descentes. Donc les présidents français étiquettent beaucoup les gens. Nous en France on donne beaucoup d'étiquettes aux gens. Ouais. Mais je pense que sincèrement le sens que je donne à la mission, moi, c'est déjà quel football je veux pratiquer. Comme j'ai dit aux joueurs, vous avez le droit d'être créatif. Mais quand vous avez respecté nos protocoles, qu'on travaille toute la semaine. Et ça, les protocoles, depuis notre gardien de but jusqu'à l'autre gardien de but, tu dois respecter les protocoles de jeu. Donc je suis très accro à certains protocoles de jeu et comment tu utilises le ballon. Ça, par contre, il faut respecter ça, sinon tu joues pas. Mmh. Mais en plus aussi, le sens que je donne à la mission, c'est comment les joueurs prennent du plaisir et comment tu peux leur apporter quelque chose dans le football, et surtout dans le football offensif, parce que le football défensif, figure-toi que n'importe quel pèlerin qui joue au football sait bien défendre. Tu peux bien défendre. Il y en a qui sont plus forts, mais tu peux être un entraîneur. Quand j'étais à Libourne, je jouais des équipes de CFA 2, CFA, qui défendaient parfaitement.
Ouais.
Mais le vrai challenge pour moi d'un très bon entraîneur, c'est comment tu sais bien faire attaquer tes équipes et faire prendre des risques, être audacieux. Mais le sens que j'en ai beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont mes amis, hein, même que j'ai quitté depuis longtemps, et qui aiment revenir avec moi, parce que le sens que j'en ai, c'est comment je leur apporte quelque chose, comment j'ai suffisamment de cohérence et de quelque part un peu, j'espère, un petit peu de compétence pour leur apporter quelque chose et qu'ils soient heureux de vivre chaque jour leur métier de footballeur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est comme ça que je veux l'exprimer. Quoi. Voilà. Ouais,
c'est sûr que mettre un bloc bas de ligne de 4, tout le monde peut le faire. L'animation, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que cette année, en Ligue 2, c'était une très belle saison. On a vu beaucoup d'équipes proposer du beau jeu, que ce soit Auxerre, que ce soit Toulouse, que ce soit Clermont. Et c'est une saison, comme en Ligue 1 d'ailleurs, on a eu beaucoup de suspense en Ligue 2. Une réforme a été votée. J'ai le collège... le collège des clubs de Ligue 2 se sont rassemblés pour critiquer cette réforme de la Ligue 1 à 18. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je fais partie du syndicat de l'UNECATEF et je pense que on aurait dû rester à 20 clubs. On doit ne pas tomber dans un système économique exagéré sur le plan de libéral et financier et capitaliste. comment le peuple a envie d'adhérer, et ça, ça peut être de plus en plus difficile avec les jeunes, a envie d'adhérer à notre football. C'est-à-dire, quelque part, en donnant des émotions à ce qui est des descentes et des montées. Et là, on comprend très bien que les clubs de Ligue 1 veulent se protéger pour rester en Ligue 1 et avoir le plus de droits télé.
L'élitisme.
Mais c'est vrai que nous, les entraîneurs, et aussi liés au fait des emplois, nous, on aurait préféré qu'on reste effectivement à 20 clubs. Ça, c'est très, très formel de l'avis à 20 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.
Ça se fait partout, à part en Allemagne.
C'est ça. Pourquoi les British, ils font ça? Non,
non, ça se fait nulle part, sauf en Allemagne, je voulais dire.
Non, c'est ça, oui, je voulais dire, ouais, c'était plutôt ça, quoi.
Ouais.
Exactement, ouais, plutôt ça.
Vivien. Ouais.
Alors, j'ai une question sur un autre sujet. On a beaucoup parlé du beau vivier des joueurs au début de notre discussion, mais au niveau des entraîneurs français, vous savez, souvent le grand public a un peu une image des entraîneurs français qui seraient moins bons que les entraîneurs étrangers. Est-ce que, par exemple, vous pensez que nos entraîneurs français peuvent entraîner dans les plus grands clubs européens? Et est-ce que vous, ça vous aurait tenté peut-être une expérience à l'étranger?
Mais oui, grave. Et moi, ça m'aurait pu, tu sais.
Où ça, par exemple?
Entraîner en Angleterre, par exemple. Mmh. Parce que, si tu veux, depuis tout petit, c'est là où est né, quelque part, où est né le football. Et il y a un siècle et demi. Et quelque part, il y a une essence, une définition très, très forte, une essence football là-bas très, très importante. Et il y a une passion importante. Donc moi, c'est vrai que j'aurais aimé, par exemple, entraîner en Angleterre. Mais pour ce qui concerne nous, les entraîneurs français, je pense qu'on... très sincèrement, je vais pas... On a autant de qualité dans plein de domaines que d'autres entraîneurs étrangers. Il y a parfois une différence qui s'est faite pour certains pays où ils continuent à faire leur diplôme à l'université. Et ça peut t'apporter beaucoup de côtoyer des théoriciens et des intellectuels du sport. Mais d'un autre côté, moi je pense qu'effectivement il y a les entraîneurs français, même si en ce moment on est en très grosse difficulté en termes d'image, mais je pense qu'on est capable, à part Furlan, on est capable de rivaliser, quoi. Les autres, ils peuvent rivaliser, quoi. À part Furlan, les autres, ils peuvent rivaliser, il n'y a pas de souci avec les étrangers.
C'est vrai qu'en France, on a l'habitude de voir un peu, voilà, on sort beaucoup l'expression de jeu de chaises musicales, on voit souvent les mêmes personnages revenir. On peut le voir encore à Nantes, Camboré qui a pris la main. Peut-être qu'il faudrait aussi, pour l'image de l'entraîneur français, revoir un peu le système de formation, le système de diplôme, et ouvrir un peu l'accès à cela, voir un peu de nouveaux profils, comme en Allemagne, on peut le voir là, en Bundesliga, il y a 2-3 coachs de Nagelsmann qui ont moins de 40 ans.
Alors, moi j'ai envie de te dire que autant tu peux favoriser, et moi j'ai 63 ans, mais je pense que quand tu es entraîneur, si tu as beaucoup d'expérience et beaucoup d'années derrière toi, ça te sert énormément, à part si tu deviens un vieux con et que tu n'es pas en phase avec les jeunes. Mais surtout, je crois que le progrès qu'on peut faire, nous, qu'on doit faire, et je pense que c'est dans tous les sports pareil, moi je connais bien le rugby, c'est un peu pareil, c'est comment on est audacieux, comment on prend des risques, comment on a envie de faire vibrer les stades, comment on a envie d'être capable d'attaquer pendant une heure et demie et de marquer un but de plus que l'adversaire. C'est surtout ça qui nous manque depuis de nombreuses décennies.
Donc vous pensez que les entraîneurs sont un peu frileux?
Oui, je pense que nous, depuis de tout temps, hein, moi je l'ai toujours connu déjà quand j'étais joueur, mais par exemple, si tu vas, quand tu discutes avec les joueurs qui jouent en Allemagne, tu discutes avec un défenseur central français qui joue en Allemagne, il te dit, c'est pas compliqué coach, au bout de 10 minutes, on n'est que deux derrière, avec le gardien. On est trois, la défense centrale et le gardien. Tout le monde monte, tout le monde est devant. Et c'est pas forcément notre trip, quoi, en France. Et c'est là, je pense que nous, on doit progresser dans le côté... Et les jeunes en ont besoin maintenant, dans le côté spectaculaire, prise de risque. Là, on doit faire beaucoup d'efforts, nous, les entraîneurs français.
Merci Jean-Marc pour cette belle interview, en tout cas d'avoir donné de votre temps pour l'émission Thème Sport sur Beurre FM. On vous souhaite que du bonheur et pourquoi pas une accession en Ligue 1, saison prochaine avec la GIA.
Ouais, j'espère bien.
Ah, il faut vous le mériter en tout cas. Merci encore Jean-Marc, prenez soin de vous.
Thème Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
On est de retour pour la dernière partie, troisième partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne, 19h. 20h avec Vivien, avec Fred. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Fred ? T'as pris la confiance, là.
Un petit peu.
Ouais, installe-toi correctement. Allez, on passe à la suite.
Sport, la troisième mi-temps.
Les amis, Roland Garros, nos Français à Roland Garros. Qu'est-ce que ça donne, Vivien ?
Bah, ça donne qu'ils sont déjà tous partis, donc.
Et tu rigoles, toi, ça te fait rire.
Il rit jaune.
Ah, mais non, mais il faut toujours essayer de voir positif, c'est-à-dire, on a toute notre fédération qui vient dans notre grand média France TV nous raconter tout va bien, donc, pourquoi est-ce qu'on est tous sortis? Les mousquetaires arrivent un petit peu en fin de vie, et puis pour moi, surtout la génération qui arrive après, pour moi, elle est encore moins forte.
Ouais.
Donc, c'est, il y avait un peu notre confrère, notre équipe, je dis ça, moi j'ai oublié son prénom, c'est
Gaston.
Incroyable. J'ai oublié le nom de quelqu'un de l'équipe Timesport.
Louis-Marie.
C'est ça, Louis-Marie, voilà, c'est incroyable ce que j'ai fait. Donc, qui nous disait effectivement, il y a quelques temps que la génération qui arrive après, pour moi, elle est encore moins forte. Et la génération actuelle, les fameux mousquetaires qui arrivent un peu en fin de vie, on voit que c'est difficile même pour eux de passer un tour. Il y a eu le fameux mon fils. Là, il est arrivé le premier tour. Il a eu vraiment beaucoup de mal contre l'Espagnol. Il a sorti des vrais coups à la Monf. Mais là, dès le deuxième tour, pour moi, ça pouvait pas passer. Et que ce soit en termes de fautes directes, même physiquement, je trouve que nos Français, ils ont beaucoup, beaucoup de mal sur cette saison de terre battue.
Ouais, mais mon fils, après, il est plutôt bon ces derniers temps. Il est bien classé, il est 20e ATP.
C'est ça.
C'est vrai qu'il a fait, face à Ramos, là, c'était un très beau match. Mais sur le troisième set, il gagnait 4 jeux à 2. Au final, il se fait reprendre. C'était le dernier espoir, un peu, parce qu'il joue Nadal.
Là, le problème, c'est que les deux matchs, ils commencent super mal. Le premier tour, il perd 6-1. Là, il perd 6-0 le deuxième tour.
Ouais.
Donc là, il a un peu joué avec le feu deux fois de suite. Et non, ça pouvait pas passer. Mais se mettre autant de temps pour se mettre en route dans un grand chelem.
C'est vrai que les deux matchs ressemblent, hein, de mon fils.
Mais après, il y avait une donnée pour moi qui pouvait aussi expliquer la médiocrité française, c'est que par rapport à d'autres grands chelems, c'est que je trouve qu'à Roland-Garros, pour moi, on donne trop de wildcards, d'invitations à des tennisman ou des tenniswoman français qui n'ont pas forcément le niveau. Et ça, c'est une donnée que le public sait pas forcément. Moi, à Roland-Garros, il y a
ça
beaucoup
qui est
plus.
Beau, moi, je trouve, plutôt.
Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui nous nivelle aussi par le bas, les Français?
Ça se fait partout.
Oh, à Wimbledon, c'est plus strict, par exemple. Est-ce non, le système de...
T'es en train de nous dire que le fait d'inviter le 366e joueur mondial fait que le niveau français...
Je trouve qu'on invite beaucoup de Français qui n'ont pas forcément le niveau.
Ouais, mais alors, est-ce que nos joueurs de tennis français, actuellement, ont encore le niveau?
Justement, en début d'émission, par exemple, on parlait de l'équipe de France en foot. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Avoir encore niveau, ce serait, on va dire, arriver en deuxième semaine. Aujourd'hui, on peut pas, à Roland-Garros, l'état de nos Français, on pouvait pas s'attendre à ce qu'ils arrivent en demi, en finale. Pour moi, c'est vraiment passer cette fameuse première semaine, comme on dit, des grands chelems. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore le niveau? Je veux croire que oui, mais
comme tu dis, la prochaine génération, la génération qui va suivre celle de Tsonga, celle de mon fils, celle de Gasquet, n'est pas forcément pour l'instant super prometteuse. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on l'a vu chez les filles, Babel, elle est classée 1111e au classement WTA et face à Svitolina qui est classée 6e. Elle a perdu de 7 à 0 logique, mais sur le deuxième set, elle fait 7-5. 7-5. Donc, en soi, c'est quand même des belles prestations, et c'est quand même une bonne chose que les joueurs nationaux qui sont moins bien classés puissent quand même participer à Roland-Garros.
Les amis, avant le tournoi, donc tous les voyants étaient déjà au rouge concernant nos Français à Roland-Garros. Et pour la première fois depuis 68, ni Français ni Française au troisième tour du Grand Chelem parisien. Réaction.
C'est super grave, mais moi ce qui me semble grave, c'est quand parce que justement on voit souvent tous les représentants de la Fédé passer sur France Télévisions toute la journée, et moi j'ai l'impression que le tennis français, il est dans un corporatisme où tout le monde a l'air un peu heureux, et personne ne se remet en question. Et je pense que c'est ça, c'est que je pense qu'on a des tennisman français talentueux, notamment en jeunes on a du talent, mais c'est cette bascule vers le monde professionnel, et pour moi il manque quelque chose. Mmh. Et manque quelque chose, peut-être c'est en termes d'infrastructure. Par exemple, on a des...
Tu penses qu'en termes d'infrastructure, il manque
quelque chose Alors non, pardon, en termes de coaching, par exemple, on a ce fameux Mouratoglou qui s'occupe de Serena Williams. Peut-être qu'il faudrait... il faudrait ramener des entraîneurs français qui pourraient nous faire progresser mentalement. Mais justement, on parle souvent, par exemple, des Français qui manquent de mental, etc. Ben, les quelques bons entraîneurs français qu'on a, ils s'occupent souvent de tennisman étranger. Donc c'est ça le problème.
Non, comme tu dis, c'est ça. Et peut-être que moi, après, je suis pas sur les terrains, mais peut-être qu'il travaille peut-être un peu moins. On ne sait pas. Benoît Paire, qui est quand même prometteur, qui a des qualités, on voit bien. Hein, il s'en cache pas. Sur Rive de Vie à côté, c'est quand même. Il me fait un peu penser à Fugini, l'Italien, tu vois. Il joue au tennis pour maintenir un bon cadre de vie, mais c'est pas forcément des compétiteurs nés comme Nadal, comme Federer, comme Djokovic. Mais peut-être que, comme tu dis, on voit beaucoup de jeunes qui sont bons, on voit beaucoup de sport études tennis, et peut-être que ce cap à franchir au monde professionnel se fait moins bien, peut-être qu'il y a moins de visibilité, peut-être qu'il y a moins de... Tu disais infrastructure, non, en termes d'infrastructure matérielle.
Voilà, c'est ça.
Là, en France, on est gâté, mais dans les autres domaines, peut-être un peu moins.
Allez, on passe à la suite.
Time Sport. Les prolongations.
Et on termine avec un mot de basket, la NBA. Vivien. C'est déjà la fin pour les Lakers.
C'est déjà la fin pour le champion en titre qui s'est fait surprendre pour le... On va dire, c'est une surprise pour le grand public.
Ça, c'est une catastrophe quand même.
Bien sûr, c'est à chaque fois que le champion en titre sort au premier tour, c'est une catacombe, c'est tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est le résultat d'une équipe qui n'a jamais trouvé la bonne alchimie. Alors, à partir du moment où ils ont gagné le titre, ils ont quand même changé 5 joueurs. Et je pense que certains qui sont partis ont été mal remplacés. Donc, il y a une mauvaise alchimie. Et puis, je pense qu'il y a eu des blessures qui se sont accumulées parce que certains ont peut-être trop forcé, dont notamment Anthony Davis, pour maintenir les Lakers à flot.
On l'a vu hier soir, d'ailleurs.
Enfin, et du coup, il y en a une équipe des Lakers qui avait beaucoup de vétérans, mais finalement qui jouaient super mal ensemble. Très mal collectivement, des joueurs qui tournaient presque à des 0 points en playoff. On se dit comment c'est possible. Donc, c'est un naufrage logique.
C'est à partir de quoi du début de l'année 2021, de février, que ça a été un peu plus compliqué pour les Lakers. Tu dis que c'est une surprise parce que c'est les Lakers et qu'ils sont champions, mais ils ont quand même fini 7e de leur conférence.
Ouais.
Donc oui, ils sont quand même qualifiés pour les playoffs, mais face au deuxième, avec un Davis qui joue à 60%, on l'a vu cette nuit, qui a pas réussi à tenir le match, avec un LeBron James qui revient également de blessure. Peut-être que c'est une saison pas à oublier, mais bon, ils sont allés jusqu'au playoff et peut-être que le groupe a poussé jusqu'au bout. Là maintenant, ce serait bien que les joueurs qui étaient blessés puissent reprendre vraiment de l'énergie pour attaquer la saison prochaine. Et comme il me semble que c'est en 2014 avec les Spurs, le champion sort dès le premier tour.
Ça montre à quel point la conférence Ouest c'est difficile, mais moi je pense que côté Lakers, à mon avis, faut quand même peut-être tout casser. Et si pendant je suis GM, je me demande même si je change pas l'entraîneur Frank Vogel.
Ouais.
J'ai une question pour vous. Première finale depuis 2010 sans Stephen Curry
et LeBron
James. Est-ce que c'est la fin, c'est la fin d'une ère ou on peut estimer peut-être que ils réussiront de nouveau à gagner un nouveau titre.
La question est très très bonne. Je vais faire une réponse bizarre. Je vais dire un peu des deux. C'est que je pense quand même qu'il y a une nouvelle décennie qui est vraiment en train de s'ouvrir en NBA, mais que peut-être les deux sont capables de revenir s'ils sont mieux entourés. Je pense que les deux restent des joueurs très très bons, mais ils pourront peut-être plus ramener comme ça une équipe en finale comme ils l'ont fait il y a quelques années. À mon avis, ils auront besoin d'être beaucoup mieux entourés. Par exemple, on parle beaucoup du Français Nicolas Batum qui sera un des free agents les plus attendus dès cet été. Et je pense que ce soit les Lakers ou les Warriors, ils auront besoin vraiment d'attirer un ou deux gros poissons comme ça.
C'est vrai que quand vous parlez de renouveau de la NBA, on peut voir que là, sur ces playoffs, il reste quand même 5 des 11 équipes sans bague dans l'histoire. Donc oui, peut-être qu'on a un renouveau et que certaines hégémonies vont basculer. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que d'autres équipes permettent de se révéler et pouvoir aspirer au titre.
Bah c'est vrai qu'ils nous ont tellement habitués les deux à être en finale que clairement oui, il y a un renouveau des Jazz, les Suns, beaucoup d'équipes qui n'ont jamais gagné de titre NBA ou qui ont gagné à très très longtemps comme les Nets notamment. Donc on va
nouveau vraiment... cycle justement Vivien, est-ce qu'il y a un nouveau cycle?
Il y a un nouveau cycle avec de nouvelles superstars comme Luka Doncic, comme bon Zion Williamson, il a pas encore réussi à arriver en playoff, mais il y a vraiment un nouveau cycle. Là c'est vraiment Devin Booker, il a vraiment crevé l'écran. Donc clairement il y a un nouveau cycle avec de nouvelles stars qui sont entourées par des vétérans comme Chris Paul, et ça fait que voilà les fameuses stars comme LeBron et Curry, forcément ils auront beaucoup plus de mal, même étant 25, 30 points, etc.
Après Curry, c'est vrai qu'on l'a enterré quand même pas mal et il a quand même fait une très belle saison, et ça c'est une bonne chose.
Bien sûr, mais ce sont encore des joueurs d'élite et il faut pas les sous-estimer, mais c'est pour ça que ce qui sera important c'est vraiment de voir comment ils vont se renforcer via les fameux joueurs libres free agents qui vont arriver là dès ce mois de juin. Les noms commencent déjà à les entendre.
On attend Vivien, nous, en NBA. Merci Vivien, merci Fred, merci à vous les garçons pour cette dernière émission de la semaine. Merci à Yanis à la réalisation, merci à Bilal qui était là au début,
et merci à toi Claude
et toutes les personnes de l'ombre qui travaillent au maximum pour vous permettre de passer un bon moment sur Beurre FM dans l'émission Time Sport. Passez un bon week-end. On se retrouve, nous, lundi 19h-20h pour une nouvelle émission.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.